France Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans France Musique est à vous, spécial Marseille. France Musique est installée dans la cité phocéenne depuis hier et ce jusqu'à demain pour célébrer le bicentenaire du conservatoire Pierre Barbizet. Émissions et concerts en direct ouverts au public pour vous sur place. Nous sommes quant à nous à Paris, mais notre émission aujourd'hui vous ouvre ses micros et son répondeur. Vous avez été très nombreux à réagir, à vouloir nous raconter la vie culturelle de cette ville, de votre ville, de ses artistes et de ses nombreuses salles de concert et festival. Une belle programmation et vous au téléphone. Le principe de l'émission reste le même, mais vous l'avez compris, avec un joli focus musical et émotionnel sur Marseille. Vous voulez participer vous aussi? Eh bien, vous avez une heure et demie pour le faire via les réseaux sociaux de France Musique et notre adresse mail francemusiqueestavous@radiofrance.com. Nous vous offrons un disque tout à l'heure, comme chaque samedi, notre jeu pour le gagner. Rendez-vous à 7h50. Et puis nos deux chroniques. Une œuvre, trois idées par Marc-Olivier Dupin autour de Marinella, d'un grand compositeur marseillais, Vincent Scotto. Et à 8h50, en fin d'émission, tendez l'oreille, devient La chronique est à vous. Christophe Dillis répond à la question d'une auditrice de Marseille. Question pas évidente du tout, vous allez voir de quand date le cloisonnement autour du terme musique classique. Le conservatoire porte le nom d'un grand pédagogue et pianiste marseillais, Pierre Barbizet, et nous commençons notre programmation, votre programmation, justement avec lui. Nicole réagit sur Facebook. Merci de rendre hommage à ce musicien, un homme simple et bon vivant. Les lundis du conservatoire gratuit permettaient de découvrir des interprètes et des œuvres, un merveilleux souvenir. Merci également aux solistes de Marseille qui nous ont offert de merveilleux concerts, sans oublier évidemment l'Opéra de Marseille. Thank you. À 7h35 sur France Musique, Idylle, l'une des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier, interprétée par Pierre Barbizet. Et en parlant de Pierre Barbizet, ce pianiste pédagogue et qui a donné son nom au Conservatoire de Marseille, à qui nous rendons hommage ce matin, un mot de Joël qui nous a écrit « J'ai fait mes études musicales de corps au CRR de Marseille et mon directeur était Pierre Barbizet. J'ai passé tous mes concours sous sa présidence. À partir de mes 16 ans, j'allais travailler tous les matins à 8h mon instrument. » Et régulièrement, je réveillais Pierre Barbizet qui parfois entrait et s'asseyait au piano pour m'accompagner dans la sonate que je travaillais. À l'époque, je ne me rendais pas compte de ma chance, mais rétrospectivement, je mesure ce que ça représentait de vivre à Marseille à la fin des années 60. Il y avait aussi la première classe de jazz en France, créée en 1963, dirigée par Guy Lognon, que j'allais écouter avec étonnement et curiosité. Voilà l'une de ces anecdotes et témoignages que nous avons reçus, vraiment très nombreuses ce matin, et ça donne envie évidemment d'aller dans cette ville incroyable qui semble riche, éclectique, ouverte, dure aussi, hein, selon vos mots, curieuse et largement tournée vers la musique. Un premier message vocal d'un Marseillais tout récent, tout de suite.
Bonjour à vous, je m'appelle Vincent, j'habite à Marseille depuis 3 jours et je vais vous parler de David Walters. C'est un musicien que j'ai rencontré il y a longtemps parce que ma mère était violoncelliste de Gotham Project et il faisait partie du même label Yabasta à l'époque. Il avait une façon de jouer avec des boucles de guitare, de voix, de rythme que j'adorais et en ce moment, moi aussi devenu musicien, je monte un spectacle avec un danseur sur le même principe. Les années avançant, je suis resté très fan de l'artiste. Aujourd'hui, il habite à Marseille et ça me fait très plaisir de savoir qu'il s'inspire de la ville. Ça se ressent quand on écoute sa musique. Je vous propose d'écouter Nocturne, c'est une belle histoire qu'il nous raconte et si on s'imagine devant la mer, encore plus.
Je ce soir là où il est, songez-moi. Ou là, ou toujours là, ou toujours là et puis moi. Ici à nous savent, les grands esprits pas qu'à jamais moi. Sans cette pas qu'à moi.
Et à la voix David Walters dans l'une de ses compositions d'un disque tout récent sorti en février dernier, Nocturne. David Walters accompagné par Balaké Sissoko à la cora, Vincent Segal au violoncelle et Roger Raspail aux percussions. 7h42, merci d'écouter France Musique. France Musique installée à Marseille pour 3 jours et nous avons reçu pour notre émission qui vous donne la parole évidemment beaucoup de témoignages. Et voici celui de Fabrice dans le 8e à Marseille. La vie musicale marseillaise est largement tournée vers son opéra, c'est incontestable, avec prédominance de l'opéra italien belcantiste et verdien. Il y a néanmoins de longue date un attachement au Wagner, notamment avec le vaisseau fantôme et le ring. Comment ne pas penser à la figure légendaire de Léonie Rijanek, laquelle chanta ici l'une de ses dernières Sieglinde dans La Valkyrie ou encore Ortrude dans Lohengrin en 1983. Elle avait noué un lien si fort avec le public marseillais avant de terminer en majesté sur toutes les scènes. Mais je voudrais vous parler également d'une maison de disques, nous dit Fabrice, une maison de disques qui existe à Marseille depuis plusieurs décennies, c'est l'Irinx, fondée par René Gambini, une grande figure musicale ici à Marseille, homme qui nous a en juin. L'Irinx bénéficie de l'acoustique magnifique du Théâtre de la Criée, pour le piano, l'une des plus belles que je connaisse, et vous pourriez honorer son travail en diffusant par exemple quelques extraits des variations Diabelli de Beethoven par ce cher Georges Pludermacher, artiste l'Irinx que l'on entend si peu aujourd'hui. Ce fut ma première version au disque, elle date de la fin des années 80. Elle se hissait alors au niveau des plus magnifiques. Nous l'avons trouvé, ce disque, dans la discothèque de Radio France. Le voici. Un extrait des variations Diabelli de Ludwig van Beethoven. C'est la troisième variation qui clôt cet extrait. Thème et donc trois variations interprétées par Georges Pludermacher au piano, enregistrées sur le label Lyrinx à Marseille en 1985. Il est l'heure de jouer maintenant, comme chaque samedi. Je vous laisse vous diriger vers l'onglet « Contactez-nous » à la page de notre émission « France Musique est à vous » sur francemusique.fr pour gagner le disque « Rivage » de l'organiste Carole Mossakowski, un disque tout récent du label Édition Radio France dans la collection Tempérament. Et puis Carole Mossakowski qui sera en dédicace dimanche prochain, le 21 novembre à midi à Musicora, 31e édition de ce salon du 19 au 21 novembre à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, évidemment, dont France Musique est partenaire. Alors, pour gagner le disque de cet organiste, Carole Mossakowski, eh bien répondez à cette question. Il vit en France, il a été en résidence ici à Radio France, mais de quelle nationalité est-il ? Dans quel pays est né Carole Mossakowski ? Est-il né en Ukraine, en Pologne ou en Hongrie ? Dans quel pays est né Carole Mossakowski ? En Ukraine, en Pologne ou en Hongrie ? Vous nous répondez via notre site à l'onglet « Contactez-nous » et quant à moi, je vous donne la bonne réponse juste avant 9h, c'est promis. Picantiem et quotidien répond à 5 voix de Carlo Gesualdo, interprété par le Concerto Soave et dirigé par Jean-Marc Ames. Concerto Soave qui nous a été proposé par Albert à Marseille. On peut déjà d'ores et déjà annoncer leur prochain concert le 3 décembre à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, ou encore le 19 décembre 500 Fête Rameau, cette fois-ci dans la salle Musica 13, toujours à Marseille. Des gens, des musiciens qui ont une grande place musicale dans la vie de Marseille, tout comme Perrine Mansuit, pianiste de jazz, née à Aix et qui a obtenu le premier prix de la classe de jazz au Conservatoire de Marseille dans les années 90. Ou encore, vous nous citez tous ces musiciens, la pianiste Amandine Habib, qui sera d'ailleurs dans l'émission Génération France Musique le Live, en direct du Conservatoire Pierre Barbizet, tout à l'heure, entre 16h et 18h, présenté par Clément Rochefort, avec des enseignants, des élèves et évidemment le directeur de ce conservatoire, le saxophoniste Raphaël Imbert, que nous écouterons d'ailleurs en fin d'émission grâce à l'un d'entre vous dans un arrangement. Ce sera vers 8h40. Et tout de suite, nous accueillons notre premier auditeur, non pas depuis Marseille, mais depuis Le Mans. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour Gabriel.
Bienvenue dans l'émission. Alors, vous êtes musicien vous-même?
Oui, oui, je compose et je dirige à l'occasion.
Alors, au Mans, vous présentez aussi, vous travaillez en tout cas pour une radio locale, Radio Alpa. Que faites-vous exactement?
Exactement, je concocte une émission qui s'appelle Le Panthéon décousu. Et vu le profil de la radio, donc c'est pas trop de musique classique, mais j'en mets dès que je peux, suivant les sujets que j'aborde, ou les personnalités que je retrace, des acteurs, des cinéastes, des groupes de musique plus rock. Mais et donc je les émissions qui durent à peu près 28 minutes grand maximum. Je mets beaucoup de documents sonores de toutes sortes qui puissent retracer un peu un portrait en mosaïque du sujet.
Bon, bah peut-être que certains de nos auditeurs à France Musique vous reconnaissent ou écoutent également Radio Alpa. Et ce matin, par rapport à Marseille, vous êtes venu vous confier à nous concernant une pianiste qui est née dans la cité phocéenne en 1895. Je vous laisse la présenter, Mathieu.
Oui, il s'agit de Jura Güler. Alors, Jura n'est pas son prénom d'état civil. Elle s'appelle Rose Georgette. Et son père a fui l'antisémitisme et s'est réfugié donc à Marseille. Elle avait une mère roumaine et elle a commencé très très tôt le piano et a donné des concerts, puisqu'à 8 ans, elle a donné un concerto de Beethoven à Madrid. Et après, elle est rentrée au conservatoire à Marseille, puis à Paris. Et elle est sortie du Conservatoire de Paris juste devant Clara Eschkill. Et après, s'est ouverte devant elle une très très grande carrière, puisqu'elle a connu tous les musiciens et compris les intellectuels de son époque. Ça va de Stravinsky, qui a demandé pour jouer les parties de piano de Petrushka, qui sont quand même très très difficiles, et jusqu'à jouer du piano avec Albert Einstein. Où elle croisait André Gide et Paul Valéry.
C'est vrai qu'en plus, elle a vécu très longtemps, jusqu'en 1980, à l'âge de 95.
Et à la fin de sa vie, puisqu'elle avait plus trop de revenus, c'est des musiciens qui lui payaient des pensions, et notamment Martin Argerich. Il y a aussi notre cher Nelson Frère et Judy Menuhin qui lui envoyaient de l'argent pour vivre en Suisse.
Eh bien, l'occasion pour nous d'écouter cette Jura Güler, pianiste, donc dans le titre que vous nous proposez ce matin, La Fleurie ou la Tendre Nanette de François Couperin. Une belle occasion pour nous de la découvrir, en tout cas dans notre émission, grâce à vous, cette pianiste née à Marseille.
C'est enregistré en 75, mais au piano, et je trouve son style tout à fait bien pour la matinée qui s'annonce. Voilà.
Un grand merci.
En douceur et en tendresse.
C'est très gentil. Merci Mathieu. Merci d'être intervenu.
Merci. Bonne journée. Au revoir. Thank you.
la version pour piano de La Fleurie ou La tendre Nanette de François Couperin, interprétée par la pianiste née à Marseille en 1895, Youra Guler. A tout de suite, France Musique est à vous, vos suggestions musicales, vos souvenirs, vos anecdotes pour cette spéciale Marseille.
Les éditions Radio France présentent Musicienne de légende de Marina Chiche. Vous connaissez sûrement Maria Callas et Clara Schumann, mais que savez-vous de Maud Powell ou Ida Presti? Violoniste, pianiste, guitariste, trompettiste, ces femmes interprètes ont marqué leur époque. Et pourtant, leur nom a disparu de l'histoire de la musique. Dans un livre richement illustré, Marina Chiche redonne vie à 30 musiciennes d'exception pour combler les silences de l'histoire. Musicienne de légende de Marina Chiche, un livre France Musique.
Il est 8h, merci d'écouter France Musique, bienvenue à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Une émission donc spéciale Marseille pour continuer à célébrer le bicentenaire du conservatoire. Merci pour tous vos messages depuis Marseille. Nous avons énormément de témoignages. Merci pour votre participation. On ne pourra évidemment pas écouter toutes les suggestions, mais je vais vraiment essayer de citer tout le monde. Des histoires sur Pierre Barbizet, des anecdotes et des jolis retours sur Raphaël Imbert, le directeur du conservatoire. Des histoires des années 60 jusqu'à aujourd'hui, de l'opéra, du jazz, du classique, des musiques de voyage, des festivals. Évidemment, beaucoup d'interprètes qui ressortent aussi dans vos mails, qui marquent ou ont marqué la ville. À 8h50, la chronique de Christophe Dillis, Tendez l'oreille, qui répond à la question d'une auditrice de Marseille, de quand date le cloisonnement autour du terme musique classique. Ça, c'est à 8h50. Et puis, tout de suite, la chronique de Marc-Olivier Dupin, une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Gabriel.
Bon, nous sommes à Paris tous les deux et puis tout à l'heure Christophe aussi et toute l'équipe. Mais vous allez nous parler évidemment d'une chanson d'un compositeur marseillais. C'est Vincent Scotto, ou plutôt même d'un tube, c'est ça?
Oui, de Vincent Scotto, le merveilleux Vincent Scotto, si mélodiste dans son travail. Nous allons parler de Marinella, cheval de bataille de Tino Rossi.
Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien.
Bah, ça donne le sourire.
Mais oui.
Quelle est la première idée dont vous souhaitez nous faire part, Marc-Olivier?
Alors, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je voudrais dire que dans la chanson, le destin d'une œuvre est généralement intimement lié à son premier interprète. Comme ça, évidemment, Marinella est liée à Tino Rossi. Mais dans la musique dite savante, le premier interprète a un rôle déterminant, mais il est vite oublié au profit des autres. Quand on pense au Sacre du Printemps, par exemple, créé en 1913 sous la direction de Pierre Monteux, on évoque aujourd'hui 1000 autres interprétations par des chefs d'orchestre d'une grande diversité, comme par exemple Boulez ou Bernstein. Mais cela dit, l'interprétation de Monteux et l'enregistrement de Pierre Monteux est magnifique. Dans la chanson, ce n'est pas le cas. L'œuvre et l'interprète sont généralement indissociables, comme ici.
Mais il n'y a pas des reprises de Marinella par d'autres chanteurs?
Alors, à ma connaissance, très peu. Laurent Rossi, le fils de Tino Rossi, s'y est essayé. Il en existe une autre version du chanteur Franck Michael, mais qui n'a pas du tout le même parfum que la version d'origine.
Écoutons ça.
Marinella, on reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour.
Effectivement, Marc-Olivier, quelle est votre deuxième idée pour ce Marinella de Vincent Scotto?
Alors, il me semble intéressant de montrer combien la chanson française de ces années s'inspire de la musique classique du 19e siècle. On peut rapprocher le thème de Marinella de beaucoup d'autres pièces commençant par un arpège, en l'occurrence trois ou quatre notes d'un accord égrené. De façon subjective, Marinella me fait penser au début de la méditation de Thaïs de Massenet.
Thank you.
c'est vrai qu'il y a quelque chose.
Ou encore à l'épilogue du merveilleux Don Quichotte de Strauss, le thème du héros étant ici joué au violoncelle.
Et votre troisième idée, Marc-Olivier ?
Alors, pour reprendre une expression de Roland Barthes, qui a si bien écrit sur la voix, sur la musique, ce qui me frappe dans Marinella, c'est le grain de la voix de Tino Rossi. La belle écriture mélodique du compositeur est complètement en adéquation avec ce timbre de voix, et elle nous permet de nous enivrer de cette voix de velours du chanteur. Et un son de velours, ça se trouve généralement chez les chanteurs de charme ou chez les violonistes. Pour finir, écoutons un extrait d'une petite pièce de Fritz Kreisler, Aucassin et Nicolette, qui aurait presque pu être composée par l'excellent musicien qui était Vincent Scotto. Nous retrouvons ici l'un des plus extraordinaires violonistes et pédagogues de tous les temps, Joseph Gingold, au son d'une douceur sans égale.
Aucassin et Nicolette de Fritz Kreisler. Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique autour de Marinella qui nous donne envie d'aller à Marseille, n'est-ce pas ?
Mais bien sûr.
Marinella de Vincent Scotto. Évidemment, votre chronique Une œuvre, trois idées est à retrouver sur notre site francemusique.fr et à réécouter sur l'appli Radio France. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Gabriel.
Bon week-end.
Gabriel Olivier Aguillon. France Musique est à vous.
Bonjour Gabriel, bonjour France Musique. Je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans et je vis dans les Bouches-du-Rhône près de Marseille. Comme vous nous invitez à parler de cette ville que nous aimons, qui, bien que violente et bruyante, peut se montrer aussi extrêmement attachante, j'ai choisi d'évoquer avec vous le côté que j'aime le plus à Marseille, c'est-à-dire son cosmopolitisme, que l'on retrouve dans ses rues où l'on peut passer d'un continent à l'autre avec leurs odeurs, leurs goûts et leurs sons propres. Pour incarner ce brassage, j'aimerais donc partager avec vous le badinage Lataloumi, issu de l'album Call to Prayer de Galia Benali et Romy Leshka, découvert grâce à France Musique, et qui est le mélange envoûtant entre répertoire baroque français et arabe classique, entre la voix chaude et sublime de Galia Benali et le jeu très expressif et riche en émotions de Romy Leshka. Le badinage Lataloumi est pour moi le plus beau morceau de cet album, et il m'évoque toute la richesse et la complexité de notre ville. Merci beaucoup France Musique, et à bientôt.
يا شاغلا فكري بالله لا تلومي فلئن رأيتني مجذوبا حرفاني كانا سببي حرفان كانا سببي للمرض والسقم قسما قسما بحرف الحاء أولهم قسما قسما بحرف الحاء أولهم بكيت بعدا واشتياقا منك إلي بكيت بعدا واشتياقا منك إليك وتوحدا بك فيك بالله قسما بحرف الحاء أولهم بكيت بعدا واشتياقا منك إليك وتوحدا بك فيك وبعدا عنك وهجرانا بلا سبب جررت أقدامي غصبا بباء جررت أقدامي غصبا بباء فعز هواني على قلبي فعز هواني على قلبي فعز هواني على قلبي أقسمت أن أفنى في الحرفين فطعنت بالجران قلبي أقسمت أن أفنى في الحرفين فطعنت بالجران قلبي فصرت مجذوبا بك فيك فصرت مجذوبا بك فيك بالله بالله لا تلومي بالله لا تلومي بالله لا تلومي
Voici notre appel à ceux qui embrassent l'unicité au-delà de toutes les différences. Je suis très émue de cette suggestion, Nicolas, merci beaucoup. Et à l'instant, ce que je viens de dire, ce sont les mots de Galia Ben Ali, la chanteuse, que nous venons d'entendre, accompagnée par Romina Lichka à la basse de viol dans ce Badinage et la Taloumi, d'après Marin Marais, le quatrième livre de pièces de viol, publié en 1717. Merci beaucoup. 8h15, France Musique est à vous, une spéciale Marseille. Et là, nous avons reçu un message de Sylvie qui est à Lantillac-Saint-Blaise dans le Lot. Mais elle nous dit ceci, France Musique étant à Marseille, je profite de l'occasion pour rendre un hommage musical à ma mère, Marcelle Vincent. Elle était inscrite dans la classe de harpe à Marseille. Elle a obtenu le premier prix après la guerre. En 1948, elle monte à Paris et intègre le Conservatoire National. Et puis elle rencontre l'amour de sa vie. Elle se marie et met au monde 3 enfants. La harpe reste une passion, mais la vie ne lui permet pas d'en faire son métier. Je me souviens l'avoir accompagnée une ou deux fois avec mes frères chez son professeur, Monsieur Jamais. Pendant la leçon, Madame Jamais ou Monsieur Jamais, Madame Jamais nous donnait nos premiers cours de solfège. La harpe trônait toujours dans le salon et elle en jouait tous les jours jusqu'à ce qu'elle devienne institutrice. J'avais 10 ans. Un morceau reste gravé dans ma mémoire, la Passacaille de la 7e suite de Handel, morceau préféré de nos visiteurs, amis et familles. J'aimerais l'écouter et le partager avec vous en espérant qu'elle aussi, ma mère, l'entendra. Elle a 93 ans et vit dans un établissement pour personnes âgées. Voici la version de Marielle Nordman ce matin. Peut-être fredonner cette Passacaille de la suite numéro 7 en sol mineur, ici pour harpe de Handel, interprétée à l'instant par Marielle Nordman. 8h19, merci de vous réveiller avec France Musique. Bonjour à Jacqueline et Jean-Pierre à Oraison, à côté de Marseille. Bonjour aussi à Adriana qui nous envoie des photos et qui était prête à nous faire visiter la ville de Marseille à qui nous rendons hommage pendant 3 jours. Nous sommes avec le conservatoire pour célébrer son bicentenaire. Merci aussi à Jean-Pierre à Marseille dans le premier qui nous a écrit, chroniqueur à France Bleu Provence, guide conférencier du temps de France 3 Radio dans les années 80. Je faisais, nous dit-il, une émission de vulgarisation avec Pierre Barbizet dans laquelle il a une fois raconté l'invention du blues dans une émission qui s'appelait Boule de gamme. Bonjour aussi à Gabriel, Annie et Siegfried qui évoquent tous trois la belle voix et l'univers du nord de l'Argentine de la chanteuse marseillaise Mandy Le Rouge, symbole pour eux de cette ville, Marseille, qui s'est construite sur le voyage, comme nous l'écrit Siegfried. Et puis tout de suite, nous accueillons Daniele. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Marseille, Daniele, et vous êtes musicien et également directeur de recherche CNRS à Marseille. Que faites-vous exactement, Daniele ?
Alors, que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est essentiellement la recherche que je fais, et donc la recherche en neurosciences, pour comprendre comment le cerveau fonctionne et surtout quel est l'impact de la pratique de la musique sur le cerveau chez les personnes adultes et aussi chez l'enfant.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans des mots un peu simples, effectivement, quel impact a la musique dans le cerveau, par exemple, dans quelques situations que vous avez étudiées?
Alors, ce qui est intéressant, ce qui est surprenant, on va dire, c'est que souvent les gens ils pensent que la musique soit faite de... Après que la musique puisse avoir un impact sur des aspects très spécifiques, comme la rapidité manuelle ou juste l'audition de sensibilité auditive, on va dire. Et en réalité, la pratique de la musique a aussi un impact sur plein d'autres fonctions cognitives, sur des apprentissages, par exemple, de la langue, sur la compréhension de la syntaxe dans une langue, sur des processus attentionnels aussi. Mmh. Et tous ces effets, en fait, on peut les étudier, soit avec le comportement, par exemple, chez l'enfant, soit aussi en regardant comment la connectivité entre les différents aires du cerveau est affectée. Mmh. Donc, c'est un impact qui est très généralisé. Du coup, ce qui nous intéresse, nous, tout particulièrement moi, c'est effectivement l'impact de la pratique de la musique sur des aspects langagés. Et donc ça devient très intéressant aussi lorsqu'il y a des difficultés, des troubles du langage, par exemple des troubles d'apprentissage, des situations un peu particulières de déficit linguistique comme chez l'enfant malentendant.
Mmh. Et là, la musique a un vrai rôle.
Et là, elle peut jouer un vrai rôle pour plusieurs raisons. Ça prendrait longtemps d'en parler, mais une des caractéristiques particulières de la musique, c'est qu'on peut la faire ensemble. Donc ça, typiquement pour les enfants, ça donne un grand plaisir en fait comme activité. Donc le fait de faire des choses ensemble, c'est très intéressant, cet aspect coopératif en fait, de la musique. Et l'aspect plaisir qu'on a en faisant la musique renforce tous les apprentissages. Ça, ce sont des phénomènes qui sont connus en neurosciences.
Mmh. Les liens donc entre la musique, le langage, le cerveau. Votre spécialité, ce sont donc les neurosciences de la musique, on pourrait dire ça comme ça?
Exactement, c'est tout à fait ça.
Vous êtes donc directeur de recherche CNRS, vous dirigez une équipe de recherche sur la cognition dans l'Institut de neurosciences des systèmes qui a comme tutelle Aix et Marseille Université, c'est ça? Et l'INSERM.
Et l'INSERM, c'est ça.
Et alors, la musique aussi, donc, vous jouez du violoncelle, vous êtes actuellement, vous faites partie d'un quatuor? Ou vous jouez plutôt en orchestre ou seul?
Alors, je joue, j'ai joué pendant longtemps un quatuor à cordes, actuellement, bon, ça, c'est un peu compliqué à... ces dernières années, voilà, c'était un peu compliqué de faire du quatuor à cordes, mais je joue toujours dans des orchestres. Il y a un orchestre, les Archers du Roi René, à Aix-en-Provence, qui est un orchestre professionnel. Je joue aussi avec l'Orchestre Symphonique de l'Université d'Aix-Marseille, qui a un très bon niveau, qui est dirigé par Sébastien Boin. Et voilà, donc après, je joue beaucoup avec mes enfants aussi. Et j'aime bien jouer dans des contextes un peu différents aussi, demander à des amis professionnels ou parfois, ou amateurs, en fonction de leur disponibilité, d'aller tout simplement dans la rue à Marseille, trouver un kiosque, se mettre à faire la musique pour des gens qui n'ont jamais entendu qui ne connaissent pas Mozart, qui ne connaissent pas Beethoven. Donc voilà, à Marseille, il y a une grande diversité, on va dire, culturelle. Et ça, je trouve, ce sont des expériences musicales qui m'y plaisent beaucoup.
Merci beaucoup, Daniele, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes violoncelliste, vous nous avez proposé d'écouter la Sarabande de la suite numéro 5 pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, le BWV 1011. Et nous allons l'écouter par l'un des interprètes que vous nous suggériez, Jean-Guyenne Queyras. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu expliqué votre métier. Très bonne journée à Marseille.
Les mêmes, au revoir. Thank you.
La sarabande de la suite numéro 5 pour violoncelle seule en ut mineur BWV 1011 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean-Guyenne Queyras. D'ailleurs, Jean-Guyenne Queyras sera notre invité dans Musique Matin ce mardi à 8h30. Merci pour vos messages qui nous arrivent en direct pour cette émission spéciale Marseille, pour célébrer depuis hier et jusqu'à demain avec toute l'antenne, avec toutes les émissions en public, en direct sur place à Marseille. Vous nous avez écrit, et vous, entre autres Xavier, qui pense à la chanson Marseille par Léo Ferré. Et puis aussi beaucoup de musiciens de la ville qui nous ont écrit, comme Lionel, compositeur. Voici son message. J'ai 70 partitions à mon catalogue, des symphonies, des opéras. Je voulais profiter pour partager avec vous l'information. J'ai écrit un cycle de mélodies, un brasier d'étoiles que nous avons enregistré avec deux musiciennes de Marseille, Marion Lyotard et Jennifer Michel, ainsi que des musiques d'Henri Tomasi, grand compositeur marseillais, né de parents corses, un disque édité par le label Maguelone. Et d'ailleurs, Henri Tomasi, un compositeur qui est ressorti aussi souvent dans vos messages. 8h28, un deuxième message vocal tout de suite, depuis Marseille, évidemment.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de dire quelques mots pour l'émission France Musique est à vous, que j'aime beaucoup. Je voudrais vous parler d'un musicien marseillais absolument magnifique et incontournable, en fait, qui, je crois bien, a fréquenté la classe jazz du Conservatoire de Marseille quand elle a été créée par Guy Lognon dans les années 60. Il s'agit de Jean-Paul Florent. C'est quelqu'un que les musiciens de jazz, et en particulier les guitaristes, connaissent bien, puisque en plus d'être un merveilleux improvisateur, dans un style qui est très cool, qui rappelle un peu celui de Jimmy Rene ou de René Thomas, avec qui il a joué d'ailleurs, et donc en plus d'être un super guitariste, c'est quelqu'un qui a enseigné le jazz et à d'innombrables guitaristes. Ça fait très longtemps qu'il fait ça et tout le monde est passé à un moment ou un autre par chez lui. Moi-même, j'ai pris des cours avec Jean-Paul, quelqu'un qui continue aujourd'hui encore de transmettre sa passion et sa maîtrise de la guitare jazz avec à la fois beaucoup de générosité et énormément de méthodes dans une approche qui est très rigoureuse, très organisée, quasi exhaustive dans le travail des arpèges, des gammes, le tout avec beaucoup d'humour. Et c'est vraiment une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection et un immense respect. Je vous propose de l'entendre sur un disque enregistré avec Chet Baker en 1979. On y entend aussi Henri Florent, le frère de Jean-Paul, qui est un merveilleux pianiste. Et c'est une composition de Jean-Paul qui s'intitule « Blues for Inge ». Merci beaucoup Gabriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Blues for Inge, une composition de Jean-Paul Florent avec Henri Florent au piano, Jean-Paul Florent lui-même à la guitare, Chet Baker là à la trompette et Jim Richardson à la contrebasse, Tony Mann à la batterie. Et c'est un extrait de leur disque Rendez-vous de 1979, une suggestion de la part de Bruno qui est musicien, directeur artistique, guitariste, chanteur de la compagnie Rassegna. Merci beaucoup Bruno pour votre message. Une compagnie basée à Marseille qui débute d'ailleurs aujourd'hui l'enregistrement de leur prochain disque Qui vive, une création de cette année qui sortira dans quelques mois chez Ambronay Éditions. Nous recevons vos mails, entre autres Sylvain à Metz qui nous dit bravo pour les couleurs entre Marseille, ses habitants et habitantes et les micros installés dans la ville. Et puis nous recevons également un mail depuis Londres de Stephen qui a adoré ce titre suite d'un goût étranger, le badinage, la taloumi de Marin Marais par Galia Benali et Romina Lichka que nous avons écouté tout à l'heure. Merci aussi à Laurence qui nous écrit, j'ai eu l'occasion de rencontrer à Marseille via des leçons de piano Joëlle Génisson, musicienne de talent, ancienne du conservatoire. Elle se produit régulièrement dans des bars, hôtels, restaurants pour des concerts de jazz latino. Elle compose également et il y a un disque encore qui va très bientôt sortir. Et puis je pense aussi à Véronique, pianiste compositrice qui enseigne l'écriture et l'orchestration au sein du laboratoire de création musicale du conservatoire Pierre Barbizet actuellement. Véronique voilà, qui nous parle de sa pièce pour piano à quatre mains, flûte piccolo, flûte qui a été enregistrée lors d'un concert cet été dans la cour d'honneur du conservatoire de Marseille justement avec plusieurs profs. Merci beaucoup. Et puis nous restons à Marseille avec Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem.
Oui, bonjour Gabriel.
Vous êtes journaliste, directeur des rédactions de La Provence depuis 2 ans. Vous êtes donc à Marseille, La Provence, qui donc participe activement à cette grande aventure France Musique à Marseille pendant 3 jours, c'est cela ?
Oui, effectivement. Moi, quand Marc Vrinchet, directeur de votre station, m'a informé en fait de la venue de France Musique à Marseille pour ce bicentenaire du conservatoire, j'ai trouvé ça génial, l'idée de s'associer à vous pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la Provence aime la musique et la culture, on en parle toute l'année, ça c'est certain. Et puis, la Provence apprécie particulièrement le travail pédagogique, j'allais dire, de France Musique pour faire découvrir ses grands airs, les expliquer, donner envie d'aimer la musique. musique classique ou la musique sous toutes ses formes. On le voit bien avec votre programme de 3 jours au Conservatoire de Marseille où tous les thèmes de musique sont abordés. On parle de musical, on parle de jazz. Et j'avoue que ça m'a particulièrement touché de se dire qu'on pouvait effectivement accompagner ces 3 jours pas tout à fait comme les autres dans la cité phocéenne.
Guilhem, vous avez donc la Provence, il y a 17 agences, c'est ça, dans les 3 départements?
Oui, on est dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, dans le Vaucluse, dans les Alpes de Haute-Provence. Mmh. Et on essaye eh bien, de faire découvrir, de raconter ce qui se passe sur ce territoire.
Mmh. Alors vous-même, je ne sais pas si vous êtes musicien, mais je sais que vous venez d'une famille de luthiers en Lorraine, pour le coup.
Oui, c'est vous êtes bien informé. Ouais. C'est ça, du côté de ma maman, en bien réfléchissant, tout le monde faisait de la musique. J'avais un grand-père qui faisait de la musique, une grand-mère prof de piano, et effectivement tout un héritage derrière de gens qui étaient luthiers à Mirecourt. C'est un petit village pas très loin de Nancy au final, où la spécialité c'était justement la fabrication d'instruments à cordes, de violons, notamment la fabrication d'archers également. C'était une des spécialité familiale, et j'avoue que j'ai grandi toujours avec cette image-là. Moi, quand j'allais passer mes mois de vacances d'été chez mes grands-parents, eh bien, il y avait des instruments, on y jouait de la musique, du piano, ce genre de choses-là. Et pour petite anecdote, Gabriel, quand j'étais, moi, petit à l'arrière de la voiture de ma maman, je crois que j'ai écouté plusieurs fois l'intégralité de l'œuvre de Brassens, de Ferrat. Mmh. Et quand c'était pas des cassettes, eh bien, c'était France Musique qui était la règle dans la voiture familiale.
Et Guilhem, je sais que vous êtes aussi un grand fasciné par la radio, et y compris le côté technologique.
Bah, y a une fascination là aussi de se dire que quelque chose qui se passe à des centaines de kilomètres peut être comme cela diffusé. C'est ce que vous faites avec votre délocalisation à Marseille, partager avec le plus grand nombre de façon très simple, de façon évidente. Et même il y a une fascination liée à l'histoire de la radio. Hein. C'est un jeune Italien, Marconi, à 22 ans, qui invente ce procédé de transmission, qui n'a eu de cesse depuis, Gabriel, de se développer, de se réinventer. C'est peut-être ce qui caractérise la radio.
Eh ben oui, la radio qui se réinvente tout le temps, technologiquement, et puis aussi dans le suivi de tout ce qui se passe. Guilhem, on a reçu un message de la part de Christophe qui nous a envoyé un tiré à part de la Provence qu'il avait fait éditer à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans de la disparition de Pierre Barbizet à la Provence, justement, une sélection d'extraits de nombreux articles que son père, Georges Galician, un critique musical, avait écrit pendant toute la période marseillaise de Pierre Barbizet. Et puis il nous a envoyé une petite citation d'une interview de son père, justement, auprès de Pierre Barbizet. Pierre Barbizet, je le cite, « Je pense que j'ai eu raison de voir dans le bâtiment, donc le conservatoire, où nous sommes, l'idéal pour une grande ville, de l'emplacement de la musique, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit, pas seulement un conservatoire, mais un bâtiment de la musique, une maison de la culture, au sens idéal du mot, une maison où un directeur d'opéra, un directeur de conservatoire, de théâtre se retrouvent, des enfants, des jeunes gens se retrouvent, il y a un vrai mélange, non pas une ascension, non pas une synthèse, mais une dimension sociale, dramatique, littéraire, et il embrasse tous les domaines de l'expression. Et ça, je pense que ça représente bien la ville de Marseille en général, mais aussi ce conservatoire qui fête ses 200 ans, n'est-ce pas ?
Bah, clairement, ce conservatoire est en plein centre-ville. C'est un quartier qui bouge. C'est un quartier, il faut se le dire, multiculturel, où les jeunes côtoient les plus anciens, où les gens qui arrivent à Marseille, c'est un port, Marseille, eh bien, passe forcément à un moment donné. Il a une place centrale, ce conservatoire, géographiquement. Et ça contribue sans doute eh bien, à l'idée que l'on peut se faire de la musique à Marseille, qui peut être très variée, qui a eu de grands compositeurs classiques, d'opérettes marseillais, vous en parliez. Ouais. Et puis aujourd'hui, même la scène rap marseillaise qui est particulièrement active et sans doute sans le savoir eh bien héritière de cette tradition musicale ici au pied de la Bonne Mère.
Merci beaucoup Guilhem Ricavi. Je rappelle que vous êtes directeur des rédactions de La Provence qui participe activement au bicentenaire du conservatoire que l'on célèbre. Prochaines émissions d'ailleurs, je le rappelle, à 11h Étonnez-moi Benoît en direct en public. Portrait de famille également, Philippe Cassard à 14h et puis Génération France Musique, le live par Clément Rochefort à 16h et puis tant d'autres émissions en direct et en public depuis Marseille jusqu'à demain, et nous écoutons l'une de vos suggestions, Claudio Arrao, dans le Nocturne numéro 2, opus 9 de Frédéric Chopin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. un tout petit extrait, la fin du Nocturne opus 9 numéro 2 en mi bémol majeur de Frédéric Chopin, interprété à l'instant par Claudio Arao. 8h43, merci d'écouter France Musique, et ce France Musique est à vous spécial Marseille. Beaucoup d'entre vous nous ont parlé aussi du festival jazz des 5 continents. Je pense à Marion, ancienne marseillaise qui est maintenant à Chambéry, qui se rappelle ses concerts en plein air où elle a vu entre autres Ahmad Jamal. Et puis également Philippe qui se confie à nous, marseillais depuis toujours comme il se présente. Mes meilleurs souvenirs musicaux concernent des événements en plein air. Il y a bien sûr le festival de piano de la Roque d'Anthéron, pas loin, sur fond de chant des cigales, mais je voudrais évoquer le festival jazz des 5 continents, même si au fil du temps je me suis davantage tournée vers la musique classique que vers le jazz. Tous les amateurs marseillais de jazz connaissent bien le parc du Palais Longchamp avec sa pelouse au pied d'un beau pin de Corse. Deux soirées m'ont particulièrement marquée. En 2013, concert du saxophoniste américain Archie Shepp, et puis également en quelques années plus tard, en 2018, Chick Corea, soirée suivie d'un concert de Roy Hargrove. Voilà, merci pour toutes vos suggestions, vos messages qui nous arrivent évidemment. Évidemment, avec tous vos témoignages, on n'a pas pu tout diffuser. L'émission se termine déjà dans une quinzaine de minutes. Mais merci, merci beaucoup d'avoir participé, vous, Marseillais, anciens Marseillais, en tout cas amoureux de cette ville et de tous ces artistes qui font la ville également. Nous allons écouter un dernier message vocal, c'est celui de Jean-Marie, qui nous parle justement de Raphaël Imbert, saxophoniste et directeur du Conservatoire de Marseille, qui fête cette année ses 200 ans.
Bonjour Gabriel, bonjour France Musique. J'aimerais vous faire partager mon amour pour Jean-Sébastien Bach, mais pour un Bach un peu différent, un Bach transversal, celui qui nous est proposé par Raphaël Imbert dans son Bach Coltrane. C'est un enregistrement qu'il a effectué en 2007. C'est une bonne occasion pour montrer que le jazz et la musique classique peuvent faire bon ménage. Lorsque j'ai appris il y a 2 ans que Raphaël était nommé directeur du Conservatoire de Marseille, je me suis tout de suite réjoui pour les enfants de Marseille, car ils allaient pouvoir découvrir la richesse de la musique et tout ce qu'on peut faire avec elle. C'est un super musicien. Il ne dédaigne pas jouer avec les musiciens non professionnels et leur faire découvrir le jazz, c'est formidable. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs à l'orchestre de Paris Sciences et Lettres, dirigé par Joan Fargeau, son ami et partenaire de nombreux concerts et enregistrements. Pour l'occasion, j'aimerais vous faire entendre un extrait du premier contrepoint de l'Art de la Fugue de Jean-Sébastien Bach. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.
Contrepoint numéro 1 et improvisation de Raphaël Imbert, extrait de L'Art de la Fugue, BWV 1080 de Jean-Sébastien Bach, extrait de son album Bach Coltrane, sorti en 2008. Raphaël Imbert, lui, au saxophone et accompagné par les cordes du quatuor Manfred. Et justement, je profite de l'occasion pour citer le mail d'Anne Claire que nous avons reçu. Elle nous dit ceci: membre du chœur de Paris Sciences et Lettres, je connais Raphaël Imbert depuis quelques années. J'ai eu la chance de chanter à ses côtés un certain nombre de fois des tournées à Londres, à Fort-Calquier, à Paris ou au Bal Blomet. Les occasions ont été nombreuses de mêler classique et jazz, de mêler nos voix et ses saxophones. Je dis bien ses saxophones car il n'hésite pas à jouer du sax soprane et sax ténor en même temps, ça fait toujours sensation. Notre collaboration avec Raphaël Imbert a changé une chose fondamentale pour le chœur, c'est notre rapport physique à la musique. Raphaël nous a appris à nous lâcher et à vivre la musique comme le font les jazzmen. C'est la première fois que j'ai dépassé le cadre classique pour vivre la musique comme une improvisation permanente. C'était lors d'un concert à la cathédrale de Fort-Calquier. Depuis ce jour, l'implication du chœur, et la mienne en particulier, est beaucoup plus visible pour le public. Et il n'est pas rare que des gens disent « Vous semblez tellement vous amuser sur scène que vous nous transportez ». Je dis donc, dit Anne-Claire, un grand merci à Raphaël Imbert de m'avoir ouvert de nouvelles perspectives musicales. 8h50, la suite de France Musique est à vous, mais ça peut pas se faire sans la chronique de Christophe Dillis. Tendez l'oreille.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
La parole est aux Marseillais, aux Marseillaises depuis le début de cette émission et ça continue.
Oui, j'ai décidé cette semaine d'adapter mon format puisque nous sommes dans une opération spéciale. Tendez l'oreille devient donc pour aujourd'hui La Chronique est à vous et c'est une Marseillaise qui va poser la question.
Bonjour France Musique. Je m'appelle Marion et j'ai une question à poser à Christophe Dillis pour sa chronique Tendez l'oreille. Je me demandais depuis quand et pourquoi cloisonne-t-on les différentes musiques? Depuis quand dit-on que la musique est classique? Bref, depuis quand on sépare la musique classique des autres musiques? Merci et je suis contente qu'on donne la parole aux Marseillaises. Bonne journée.
Vaste sujet, dis donc, Christophe.
Vaste sujet, délicat sujet, sujet terrain glissant sur lequel tout le monde a un avis. Il faut savoir, Marion, que beaucoup de nos auditeurs se posent en permanence la question de la place de la musique classique dans la société, avec une très nette impression, rassurante ou angoissante, de faire partie d'une marge ou d'une niche. Écouter de la musique classique, on viendra d'ailleurs plus tard sur le terme, pourrait presque tenir de la contre-culture aujourd'hui. Il faut savoir, Marion, et c'est pas si évident, qu'il a toujours existé plusieurs musiques au même moment, au même endroit. Ces musiques, on va leur donner plein de noms. On va parler de musique écrite contre musique orale. On va les appeler musique de cours ou musique d'église. D'autres musiques, on va les appeler musique populaire, musique de chanson, etc. Pouvait y avoir, par exemple, au XVe siècle, de la musique chantée à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, et une musique très différente, jouée, chantée et dansée au même moment sur le parvis de la cathédrale, dans ce qu'on pouvait pratiquer en même temps à la cour de Charles VIII au château d'Amboise. Depuis toujours, les styles et les genres cohabitent, se nourrissent entre eux, entre profanes et religieux, entre cours royales et basse-cours, pas du tout royales, mais il faut se rendre compte d'une chose, la disparition naturelle du patrimoine oral va créer une sorte de biais cognitif qui va nous faire oublier qu'il a existé plusieurs répertoires en même temps. Alors ça nous amène au deuxième point de votre question, justement, le terme de musique classique. C'est un mot passionnant, c'est un mot très polémique. Certains l'emploient uniquement pour parler de la musique de la fin, en tout cas de la deuxième partie du 18e siècle, celle que le musicologue autrichien Raphaël Georg Kiesewetter a appelée en 1834 l'école viennoise, à savoir Mozart et Haydn, on a ajouté Beethoven un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très tôt que le terme classique a pris les deux sens qu'on lui connaît. Le premier sens, c'est-à-dire musique du 18e siècle, Mendelssohn l'emploie dès 1830.
Quand je me suis plaint que Mozart et Beethoven n'étaient pas assez joués, on m'a répondu « Oh, vous aimez la musique classique ?» Oui, j'ai répondu.
Berlioz, la même année, en 1830, dans son aperçu sur la musique classique et la musique romantique, a la même vision, c'est-à-dire classique en opposition au terme romantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'exactement au même moment, le terme classique est employé dans son deuxième sens, plus délicat, plus hiérarchisant, c'est-à-dire musique de répertoire, musique savante, grande musique, musique cultivée, etc., par l'historien Kiesewetter.
On a toujours déploré le déclin, voire la perte de la bonne vieille musique, que ce soit à l'époque de Palestrina, Carissimi, Scarlatti, Haydn ou de Mozart, les classiques.
Et j'ai trouvé un document de 1879, un exemplaire du Musical Times and Singing Class Circular, dans lequel Charles K. Salaman dit la même chose.
La musique classique est une expression communément utilisée. Elle décrit la musique composée selon certains critères d'excellence par les grands maîtres, c'est-à-dire Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Spohr et Mendelssohn.
Et je vais terminer avec quand même une date précise, Marion. Vous me demandez depuis quand on cloisonne la musique classique du reste. Je vais vous le dire, l'été 1959. Sur Europe 1, l'émission « Salut les copains » est lancée par Franck Thénault et Daniel Filippacci, relais de la culture populaire américaine et britannique. C'est le début des yéyés, yéyés comme dans « yay yay » des Anglais, et là ça change tout. Et c'est Olivier Julien, mon prof à la Sorbonne, qui l'explique le mieux. Les jeunes ont tout à coup autre chose à écouter que la musique de leurs parents. Ils ont leur propre musique, en opposition à Trainé et à Brassens, une musique qu'on peut écouter dans sa chambre grâce au disque et à la radio. Ce qui était parti pour être une émission comme une autre est devenu rapidement un phénomène, révélé par le concert de la Place de la Nation du 22 juillet 1963. 150 000 jeunes viennent écouter Mike Shannon, Richard Anthony, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, qui offrent au public une musique américaine, traduite en français. La culture yéyé, toujours selon le musicologue Olivier Julien, lance très franchement le début de la contre-culture, contre le parent, et donc d'une certaine façon contre la culture classique.
Oui, pour nous qui avons 20 ans, à l'importance de maintenant.
Voilà qui répond à la question de Marion. Grosso modo, musique classique contre musique populaire, ça ne date pas d'hier, même si on a oublié le répertoire historique oral au profit des symphonies écrites. Que le terme classique a toujours voulu dire à la fois musique de Mozart et Haydn et musique des grands maîtres à travers le temps, et que le cloisonnement entre classique et populaire au sens moderne d'aujourd'hui date du tout début des années 60 avec la culture yéyé, culture américanisante, anti-parent et donc anti-classique.
Et ce sera le mot de la fin. Musique classique, musique populaire, musique savante, musique de répertoire, musique cultivée, musique populaire, toute cette forêt de mots est à prendre avec des pincettes, en toute conscience que ça établit un lien de hiérarchie entre les styles et les genres. Gabriel.
Merci beaucoup Christophe et merci Marion depuis Marseille pour cette question. Votre chronique Tendez l'oreille, bien sûr, est à retrouver sur notre site francemusique.fr et à réécouter sur l'appli Radio France. Bon week-end Christophe.
Merci, bon week-end et bonne semaine.
À samedi prochain, vous allez à la Marseille du coup, ça vous donne envie?
Il fait trop beau, je préfère la pluie et les kilts.
Merci beaucoup à toute l'équipe de France Musique et à vous, Lisa Crépy, Élise Lejeune, Nicolas Bichet, Vivian Lecuivre à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Stéphane Poitvin et Emmanuel Rose. Et bien si avec tout ça on n'a pas envie d'aller à Marseille, moi j'ai pris mes billets, je rejoins tout le monde. En tout cas France Musique est à Marseille encore jusqu'à demain pour célébrer avec vous partout en France les 200 ans du conservatoire Pierre Barbizet. On continue avec les émissions en direct et concerts sur place donc jusqu'à demain. Pour notre jeu du jour, il fallait nous répondre la Pologne, le pays de naissance de Karol Mossakowski. Vous gagnerez son tout récent disque Rivage et puis vous pouvez le retrouver l'organiste à Musicora, salon musical à la scène musicale du 19 au 21 novembre, c'est très bientôt. Bravo à Annie, Anne-Marie et Eric qui ont donc gagné ce disque. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse avec Charlotte Landru-Chandès. Et moi, j'aurai le plaisir de vous accompagner entre 7h et 9h toute la semaine prochaine pour Musique Matin. Et puis bien sûr, on se retrouve pour France Musique est à vous samedi prochain à 7h30.
À réécouter sur francemusique.fr.